VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour un tour d'horizon de l'actualité. Les derniers développements sur le Zimbabwe. L'ancien vice-président en exil Emmerson Mnangagwa, pressenti pour remplacer le président Robert Mugabe qui a démissionné, est attendu aujourd'hui à Harare. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP son assistant personnel. Selon Larry Mavima, M. Mnangagwa atterrira à la base militaire de Maniam. Il se rendra ensuite au quartier général du parti pour faire le point, puis au bureau de la présidence pour faire un autre point, a-t-il ajouté. Dimanche dernier, l'ancien vice-président a été bombardé, président du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et candidat à l'élection présidentielle de 2018. Sans attendre que M. Mnangagwa prête serment, l'opposition a demandé des négociations pour démocratiser le pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s'est félicité de la décision du président Mugabe de démissionner. L'organisation continentale reconnaît que le peuple zimbabwéen a exprimé le souhait d'un transfert de pouvoir pacifique. La Chine, importante partenaire du Zimbabwe, a rendu hommage aujourd'hui à son ami Robert Mugabe au lendemain de la démission du doyen des chefs d'État de la planète, tout en promettant poursuivre sa coopération avec Harare. Adulé à son arrivée à la tête du Zimbabwe, indépendant en 1980, Robert Mugabe était, avant d'être poussé à la démission hier, vilipendé par ses détracteurs et considéré comme un autocrate qui a ruiné une économie jadis prospère. Robert Mugabe, de libérateur à oppresseur, son portrait avec Jacques Aristide.
Pour ses partisans et les anciens combattants de la lutte contre le pouvoir colonial, Robert Mugabe a toujours su rester un dirigeant révolutionnaire et une icône. S'il était fustigé par les Occidentaux, disent-ils, c'est parce qu'il refusait d'être à leur solde. Il est emprisonné pendant 10 ans au milieu des années 1960 parce qu'il combattait la colonisation britannique à l'époque de la Rhodésie blanche. En 1980, année de l'indépendance, Robert Mugabe est élu Premier ministre. Il prêche alors, plus de 10 ans avant Nelson Mandela, dans l'Afrique du Sud voisine, la réconciliation entre Noirs et Blancs. 7 ans plus tard, à la faveur d'une modification de la Constitution, il s'installe comme président. Au milieu des années 1980, une rébellion dans la province du Matabeleland est réprimée dans le sang. Robert Mugabe en profite pour s'en prendre directement à son ancien allié de la lutte révolutionnaire, Joshua Nkomo. En 2000, il se lance dans une offensive tous azimuts, soutien à l'occupation violente des fermes blanches, virulente campagne contre l'homosexualité, sermon féroce contre les complots de toutes sortes qui le menaceraient. L'économie sombre dans le chaos et subit l'inflation la plus élevée au monde. Le chômage touche 80% de la population. Il obtient un nouveau mandat de 5 ans en mars 2008, au terme d'un scrutin marqué par les violences et le retrait de son rival de longue date, Morgan Tsvangirai. Sur un plan personnel, Robert Mugabe est un ascète élevé par les jésuites qui ne boit jamais d'alcool. Il est marié depuis 1995 à son ex-secrétaire Grace Marufu, qu'il a épousé 3 ans après la mort de sa première femme d'origine ghanéenne, Sally. Il est père de 3 enfants. Grace Mugabe, 52 ans, était considéré ces derniers temps comme la personnalité la mieux placée pour lui succéder jusqu'à l'intervention de l'armée.
L'ex numéro 2, Emmerson Mnangagwa, sera investi président du Zimbabwe ce vendredi. Quelle lecture faire de cette révolution de palais? Faut-il s'attendre réellement à un avenir meilleur pour le Zimbabwe? Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud le professeur André Thomas Chausen de l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA.
Ça, ce sera la grande question, la question que se posent les organisations de la société civile, la presse, les intellectuels, parce que, évidemment, les grands généraux, ils faisaient toujours partie du clan, de l'élite très privilégiée du pouvoir. Mais je pense que, spécialement M. Mnangagwa, qui est un politicien avec beaucoup d'expérience, va reconnaître la nécessité d'un renouvellement du mandat du peuple, la nécessité d'une inclusion démocratique, c'est-à-dire, en termes concrets, la nécessité d'élections, d'élections libres, parce que les dernières élections au Zimbabwe n'étaient pas du tout libres, pour que le gouvernement, à partir de maintenant, même déjà pendant la transition, pourrait avoir l'autorité et la légitimité d'adopter des réformes et de mener le pays en avant.
Mais Emmerson Mnangagwa Mnangagwa est également comptable de la situation actuelle parce qu'il co-gérait avec Mugabe.
Absolument. C'est lui qui est le grand coupable de la falsification et la dégénération des élections de 2008. Mais c'est un technocrate du pouvoir. C'est un homme qui a une réputation d'être un réaliste, surtout très intelligent. Je soupçonne aussi qu'il a l'appui de la Chine populaire, qui est le plus grand investisseur au Zimbabwe. Et ça lui permettra de renégocier les conditions financières et économiques dans les prochains 6 mois, ce qui sera essentiel pour maintenir la paix et l'ordre public.
Le professeur André Thomas Schausen, expert en droit constitutionnel, joint à Pretoria, en Afrique du Sud.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Somalie, une frappe américaine sur un camp d'entraînement des islamistes Shebab a tué plus de 100 combattants selon le commandement américain pour l'Afrique. L'opération a eu lieu hier selon le communiqué d'Africom qui précise que le bombardement a eu lieu à quelques 200 km au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie et les drones ont ciblé les Shebab et les djihadistes du groupe État islamique ces dernières années. Au Mali, une sortie du commandant de l'opération française Barkhane, le général de brigade Bruno Guber, fait du bruit. Selon la presse à Bamako, il a mis en doute la bonne foi des groupes armés signataires de l'accord de paix, accusant ces derniers de signer des accords qu'ils n'appliquent pas sur le terrain. Bagassi Koura a recueilli la réaction de l'activiste malien Tibiri Demba.
Nous savons il y a très fort longtemps de cela et nous avons tout le temps dénoncé ça. Ces groupes terroristes que les Européens ou la France appellent les groupes armés, pourtant, quand ils sont à Kidal, ils sont émenés là, et à la frontière Niger-Mali, ils sont terroristes.
Oui, mais il doit y avoir quand même parmi tous ces gens des groupes qui sont assez sincères, qui ont vu d'aller à la paix.
Les seuls groupes sincères parmi ces gens, c'est Gakia. Ils ne veulent que limiter du Mali. Surtout ces groupes qui sont appelés à Zawad par-ci par-là, ce sont des groupes terroristes. Ils viennent signer des contrats ici à Bamako, on leur donne l'argent. Après, cet argent-là est utilisé pour acheter des armes encore contre l'armée malienne.
Et pourquoi Bamako n'a pas réagi? Il a fallu un général français pour le dire publiquement.
Bamako est très faible. Bamako est affaibli carrément par la France. C'est la France qui refuse catégoriquement la présence des militaires maliens à Kidal, dans ces parties-là. On dirait que la France a d'autres agendas au Mali, au nord du pays, qui est caché, mais nous sommes là-dessus, nous sommes en train de découvrir petit à petit la vraie face de la France.
Oui, mais c'est la France aussi qui a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako.
Oui, la France a arrêté la progression des djihadistes sur Bamako, il faut le dire, c'est vrai, mais la France a fait ça pour ses propres intérêts parce qu'il y avait des Français ici.
Et comment vous voyez cet accord de paix dans ce contexte-là?
Moi, je dirais, ce n'est pas un accord de paix, parce que c'est un accord qui est signé entre le gouvernement et le groupe des armées ou le groupe terroriste. L'accord de paix que nous voulons, c'est un accord où tout le peuple malien sera concerné.
Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées dans des attaques menées contre des villages d'éleveurs, peuls dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police. Les agriculteurs de l'ethnie chrétienne Bashama ont attaqué lundi 4 villages d'éleveurs peuls musulmans dans la région de Nouma, tuant principalement des femmes et des enfants, a déclaré le porte-parole de la police d'Adamawa, Othman Aboubakar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le groupe pétrolier chinois CEFC, China Energy, a démenti être impliqué dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda, dans le viseur de la justice américaine. Le ministère américain de la justice a annoncé lundi l'inculpation de Cher Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et de l'ex-responsable politique hongkongais, Shiping Patrick Ho. Ils sont accusés d'avoir corrompu des hauts responsables au Tchad et en Ouganda afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise à coups de pot de vin représentant plusieurs millions de dollars, selon le communiqué du ministère. Et puis, Vladimir Poutine a donné des assurances hier à Donald Trump selon lesquelles il œuvrait en faveur d'un règlement politique à long terme en Syrie. C'est des propos intervenus après une rencontre avec Bachar al-Assad à la veille d'un sommet avec l'Iran et la Turquie. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Yacouba Ouédraogo, depuis Washington, je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.